Voilà, nous continuons notre série sur le vocabulaire chrétien. On avait parlé longuement de la repentance la dernière fois. Et aujourd'hui, nous enchaînons avec le mot royaume. Le royaume, c'est un territoire, un peuple, avec un peuple sur lequel règne un roi. Et ce roi a tous les droits. Donc, ce qui est sur le territoire est sous son autorité. Et le Seigneur compare son territoire à un royaume. Et quand on dit un peuple, dans le peuple, il y a aussi des étrangers. Au milieu du peuple, il y a aussi des étrangers. Il y a de tout. Mais il y a un territoire, il y a un peuple et il y a un roi. Et le royaume de Dieu, c'est une notion qu'on ne peut pas définir qu'avec une phrase ou quatre phrases. C'est pourquoi le Seigneur a été conduit à utiliser plusieurs paraboles pour expliquer le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il a utilisé plusieurs paraboles. Dans Matthieu, au chapitre 13, il y a la parabole du semeur, il y a la parabole de l'ivraie et du blé, il y a la parabole du grain de Senevé, il y a la parabole du monsieur qui plante. Ça, c'est dans Marc 4, 24 à 26, c'est toujours le royaume de Dieu. Il y a la parabole des vierges sages et folles. Il y a plusieurs paraboles que le Seigneur a utilisées. Il y a la parabole des talents. Plusieurs paraboles qu'il a utilisées pour parler du royaume, afin qu'on comprenne toutes les facettes. Mais d'une manière générale, on peut dire que c'est le peuple, le lieu de l'action du règne de Dieu. Et en quelque sorte, nous pouvons retenir deux éléments. Il y a un côté du royaume, côté pouvoir, où il ne s'agit que de Dieu et de son armée. Et il y a un côté royaume qui englobe tout le reste, parce que Dieu agit dans tout le reste. Mais un exemple, quand Jésus dit les gens, certains parmi vous ne mourront pas sans voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Voilà, donc le royaume de Dieu, là, quand il dit que le royaume de Dieu venir avec puissance, il s'agit du pouvoir de Dieu, du règne de Dieu qui va venir avec puissance. Il s'agissait, entre autres, de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, les gens ont vu le règne de Dieu se manifester, le royaume de Dieu se manifester avec puissance. Mais il y a une partie, quand on prend la parabole du grain qui est semé, quand il pousse, ça devient un grand arbre sur lequel viennent se poser des oiseaux. Donc c'est une partie globale où le royaume de Dieu agit, a un pouvoir, mais dont profitent beaucoup d'éléments qui ne sont pas forcément par leur espèce de la nature du royaume de Dieu. Donc il y a ces deux faces-là, il y a le royaume de Dieu, nature de Dieu, pouvoir de Dieu, armée de Dieu, et il y a le royaume de Dieu, terrain d'action de Dieu, qui est tout l'univers, en particulier l'Église, qui est aussi le terrain d'action de Dieu, et dans ce terrain, il y a, on peut retrouver beaucoup de choses. Donc, c'est à peu près ça qu'on peut comprendre du royaume de Dieu. Et ce qui doit nous intéresser, nous, enfants de Dieu, c'est le côté armé de Dieu, le pouvoir de Dieu. Parce que nous ne nous, nous considérons pas comme faisant partie des étrangers qui sont autour du royaume de Dieu, des oiseaux qui viennent se poser sur l'arbre. On se considère comme faisant partie de l'arbre de Dieu, de son royaume, de le côté nature de Dieu, le côté pouvoir de Dieu. Nous faisons partie de ça. Et À partir de là, nous devons accepter Dieu comme le roi. C'est ça qui est très important pour nous, premièrement, de savoir. Et d'ailleurs, quand le Seigneur nous parle du royaume de Dieu en termes d'avertissement, il nous donne, il nous parle du royaume de Dieu comme appartenant à un chef qui vient demander des comptes par rapport à ce qu'il a donné. Donc, c'est la partie qui nous intéresse le plus, où il est question de nous-mêmes. Parce que quand on parle de livrer, si nous, on n'est pas ivré, bon, ça ne doit pas beaucoup nous intéresser. Ça doit nous intéresser par la connaissance ou pour aider des gens. Quand on nous parle de grains qu'on a, le grain qu'on a semé, la parabole du semeur, c'est très intéressant. Mais c'est beaucoup plus une description de la réalité de ce qui se passe sur terre. Mais là où il y a avertissement, c'est qu'un jour, le roi viendra demander des comptes par rapport au talent qu'il a donné à chacun. Il y a une autre parabole, on dit que quel est ce serviteur que son maître, quand il reviendra, il ne trouvera pas en train de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Donc nous, on doit faire attention. On doit se souvenir que Dieu est roi et que tout lui appartient et il demandera des comptes en tant que roi. Même si on est chrétien, on doit s'en souvenir. Il est le roi. Et nous qui sommes habitués, nous qui plutôt avons vécu un peu dans des royaumes, nous comprenons très bien ce que c'est qu'un roi. Moi, j'ai vécu au Maroc, un royaume. C'est pas comme l'Angleterre, un royaume à moitié. Un vrai royaume, c'est que tout ce qui est... En fait, c'est comme la maison du roi. Et quand tu vis dans ce genre de pays, quand on parle du royaume de Dieu, tu comprends c'est quoi un roi. Et d'ailleurs, Dieu avait prévenu les enfants d'Israël quand ils lui demandaient « Donne-nous un roi ». Dieu leur avait dit « Mais attention, moi je suis votre roi, ça vous dérange ? Vous préférez un roi humain ? » Ils disent « Oui, nous voulons un roi humain comme toutes les autres nations. » Mais il leur a dit « Mais attention, le roi que vous allez prendre là, il aura le droit sur vos filles, sur vos enfants. Il va utiliser vos enfants pour faire la guerre, vos masculins, vos hommes pour faire la guerre. Il va utiliser vos femmes pour faire le pain, vos filles pour faire la cuisine pour lui. » Il aura le droit sur tout ce que vous avez. Est-ce que vous comprenez que c'est ce que vraiment vous voulez? Ils ont dit oui, mais Dieu les a prévenus. Donc c'est pour nous dire qu'un roi, c'est un roi. Ce n'est pas un président qui est élu tous les 4 ans, tous les 5 ans. Ce n'est pas un président qu'on peut même traîner devant les tribunaux. Il y a en Israël aujourd'hui, il y a un ex-président israélien qui se retrouve, je crois, en prison, Moshe Katsav. Mais bien sûr, on ne verra jamais de telles choses dans des pays comme la France ou les États-Unis. C'est là qu'on comprend vraiment que la vraie démocratie, c'est Israël. Mais c'est une réalité. Un président traîné dans les tribunaux, jusque devant les tribunaux, jusqu'à aller en prison. Un président, un ex-président, mais... Dans nos pays, c'est toujours comme il a toujours le titre honorifique de président. Et là, le roi, pour le roi, ça n'a rien à voir. Le roi, c'est lui qui fait la justice. Ce n'est pas la justice qui fait le roi, c'est le roi qui fait la justice. Donc à partir de là, qui es-tu pour lui porter plainte, pour contester ? Parce que c'est lui la justice. D'ailleurs, le Seigneur donne un exemple de cela à Pierre. Quand il dit à Pierre, mange et tue, Pierre dit, mais c'est interdit. Mais Dieu lui dit, mais c'est moi qui décide ce qui est interdit. Donc à partir de là, on comprend c'est quoi le roi. Quand on sait ça, bien-aimé, notre attitude change par rapport à Dieu. C'est pourquoi c'est écrit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Notre attitude change parce qu'on va sans cesse aller vers le roi pour demander son avis, parce que c'est son avis qui compte. C'est l'avis du roi qui compte. C'est lui qui tranche. Je suivais l'histoire d'un pasteur qui a été libéré en Arabie Saoudite. On appelle le général, un général, le chef de tout ce qui concerne prison en Arabie Saoudite, on dit, va libérer ce monsieur-là. Tu mets ta tenue de général et tu vas libérer le monsieur. Le général dit, mais il y a d'autres personnes chargées de ça. Le roi dit, moi j'ai décidé que ce soit toi qui ailles le libérer. Mais ce n'était pas la procédure. Et il arrive là. Le chef de la prison dit, mais non, on ne libère pas des condamnés à mort. Le général lui-même dit au monsieur, c'est le roi qui m'a dit de faire ça. On sort le monsieur, on l'amène à l'aéroport, le pasteur, on l'amène à l'aéroport. Et le général lui dit, mais quel est ton dernier souhait? Le pasteur dit que tous ceux qui sont venus me voir partir entrent avec moi jusqu'à la porte d'embarquement. Les personnels de l'aéroport disent, c'est interdit, mon général. C'est impossible. Le général a dit, c'est l'homme du roi. Le roi a décidé. Et tout ce que le pasteur a demandé qu'on fasse, ça s'est effectué. Ils ont loué le Seigneur près de la porte d'embarquement en Arabie Saoudite. Voilà. Parce que le roi de l'Arabie avait décidé de faire ça. Le roi, c'est qu'il décide, même quand la justice a écrit quelque chose, ça ne compte pas. C'est le roi qui décide. Donc, le roi a tous les pouvoirs. Donc, il faut qu'on comprenne ça en tant que chrétien, que Dieu est roi. Ne transposons pas notre système démocratique dans les choses de Dieu pour dire, ah, mais ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Non, il y a un chef, il y a un roi. Et ce roi-là a déjà donné ses instructions dans sa parole. Et c'est ce que nous devons suivre. Il n'y a pas à faire des caprices, il n'y a pas à vouloir autre chose. C'est ce que lui l'a décidé, c'est ça qui compte. C'est très, très important. Donc, quand lui dit une chose, c'est ce qu'il faut suivre, c'est ce qu'il faut appliquer. Et Pierre a dit, non ! Le Seigneur a dit, c'est moi qui te dis, tu manges, tu tues et tu manges. Mais non, c'est impur. Ah, ben, il a fini par lui dire, mais c'est moi qui décide. Donc, nous ne devons pas oublier cela, que le Seigneur est le roi. Ce n'est pas notre pote, comme on dit. Ce n'est pas notre copain. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Même quand il est notre père, même quand il est notre ami, il reste le roi. Nous devons être capables de vivre tout cela en même temps. Le fait qu'il soit notre ami, le fait qu'il soit notre sauveur, le fait qu'il soit notre frère, en parlant de Jésus, mais le fait qu'aussi il soit le roi. Voilà. Et si nous savons gérer le fait que Dieu soit un roi, notre vie sera agréable. Quand tu respectes le roi, quand tu obéis au roi, ta vie sera tranquille, ta vie sera couverte par sa protection, son amour, ses bénédictions. Donc c'est simple finalement la vie chrétienne, quoi. C'est obéir au roi, être attentif au roi. C'est très important. Être attentif au roi. Et tout est simplifié pour toi par la suite. Parce que quand quelqu'un veut toucher, le roi dit non, personne ne peut toucher. C'est ainsi qu'il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc tout ce qu'on doit faire, c'est lui rendre sa place de roi. Vous savez, Jésus n'a pas rejeté cette place-là. Quand on l'accueillait à Jérusalem, Hosanna au fils de David. Le fils de David, c'est le roi Messie, c'est le Messie. Il n'a pas refusé ça. Et quand il leur a lavé les pieds, il leur a dit, vous m'appelez maître. Non, quand plutôt il leur a donné le conseil par rapport au fait qu'il cherchait qui était le plus grand. Il dit, moi je vous dis, vous m'appelez maître. Et ce n'est pas faux, il leur dit, ce n'est pas faux, je suis votre maître, je suis votre roi. mais cependant, je suis parmi vous comme un serviteur. Mais il est le roi en même temps. Donc, on doit être capable de gérer tout ça. Beaucoup, vous savez, de chrétiens, à cause des bénédictions, finissent par considérer Dieu comme un ami. Ils peuvent pécher tranquillement. Ils peuvent faire des manquements tranquillement. Ils peuvent négliger leur appel. Mais tant qu'ils voient l'eau couler par le robinet, tant qu'ils voient le salaire augmenter, tant qu'ils voient telle bénédiction à gauche, bon, ils se disent, oh, Dieu me comprendra, il m'aime beaucoup, c'est mon ami. Ah, attention, c'est aussi le roi. Oh, il ne faut pas avoir affaire à lui qui manifeste sa royauté, son jugement clairement sur toi. Tu ne vas pas comprendre. C'est quelque chose de très fort, de très, très dangereux. Donc, il faut faire en sorte que tu le considères roi et tu vis avec lui comme un ami, comme un père. Voilà. Tu es tranquille, mais vouloir négliger son côté roi, ça t'amènera à faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises qui vont coûter cher. Et le royaume de Dieu, nous devons considérer que s'il y a un roi, il y a une organisation aussi, et il faut qu'on respecte cette organisation-là qui est établie dans ce royaume. C'est ainsi qu'il est écrit dans Romains 13 que toute personne soit soumise aux autorités. Car celui qui résiste à l'autorité résiste à Dieu lui-même. Voilà, donc c'est une structure, c'est une organisation qui a pour premier chef le roi et ensuite il a organisé ça en sa manière. Dans l'église, il a organisé, dans le monde, il a organisé. Il faut qu'on respecte tout cela. Quand on commence à vouloir faire autrement, c'est écrit, hein, c'est contre Dieu lui-même qu'on s'embarque. Et c'est dangereux. Et parfois, on pense être de Dieu. On pense être aimé de lui. On prie, mais on n'obéit pas au système du Seigneur. On ne respecte pas les autorités. On ne respecte pas les parents. On ne respecte pas le mari. On ne respecte pas les professeurs, les présidents. Non, on doit respecter. Les policiers, on ne respecte pas. On doit respecter les autorités qui ont été établies. Parce que s'opposer à elle, c'est s'opposer à Dieu lui-même, parce que c'est lui le véritable roi. Et beaucoup pensent qu'ils sont capables de désobéir aux pasteurs, de désobéir aux autorités établies, mais obéir à Dieu, c'est impossible. Donc c'est parce que finalement, tu finiras par considérer Dieu aussi comme une personne qui peut se tromper, une personne qu'on ne voit pas d'ailleurs. Donc, on finira par désobéir. Donc autant obéir à la chaîne de commandement du Seigneur et on pourra obéir à lui-même aussi. Parce que c'est lui qui établit cette chaîne de commandement, de direction et de travail. Donc retenons ce côté royaume, voilà, de Dieu dans ce sens-là. Et d'ailleurs dans Romains 11, 33-36, c'est écrit ceci. Romains 11, 33-36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que toutes sont toutes choses. Donc je vis pour Dieu. Tu vis pour Dieu. C'est pour lui que sont toutes choses. Et c'est lui qui a fait toutes choses. Donc il est le roi naturel. Ce n'est même pas un roi qu'on a mis par quelqu'un. Il est le roi naturel parce que c'est lui qui a tout fait. Et il a fait ça pour lui. Donc c'est logique que nous vivions pour lui. Et je sais que beaucoup, quand ils entendent notre discours, ils pensent qu'ils ont affaire à un Dieu dictateur. C'est faux. Au contraire, c'est eux qui sont dans l'ingratitude et dans la rébellion. Parce que c'est Dieu qui a fait tout. C'est logique que tout soit à lui parce que c'est lui qui a fait. C'est logique, c'est naturel. Donc la foi en Dieu va ensemble avec la considération qu'il est roi. Tu ne peux pas croire en Dieu comme quoi il est créateur, il a tout fait, et le rejeter comme roi. C'est une contradiction. Si tu crois en Dieu, si tu crois qu'il existe, donc forcément qu'il est le créateur, donc tu devrais l'accepter comme ton roi. Et c'est ce que beaucoup refusent. Et comme ils le refusent comme roi, ils finissent par le rejeter comme créateur, parce que ça va ensemble. Ils finissent par le rejeter comme rejeter son existence, parce que ça va ensemble. Et Romains 14 aussi nous dit, au verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc le verset 17 nous donne la vie dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le manger, le boire qui pilote tout ça. Ce n'est pas le matériel, c'est le spirituel qui pilote tout ça. C'est la vie avec l'Esprit de Dieu, à travers les instructions de Dieu qui sont dans sa parole. C'est ça le royaume de Dieu. Un vrai enfant de Dieu devrait chercher. Donc là, la partie là que nous venons de citer, c'est la partie correspondant qu'aux enfants de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire je suis proche de Dieu, je vis avec lui, forcément j'ai la joie, la paix, la justice. Je suis guidé par lui, je m'attends à lui. Voilà, c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas chercher à s'accaparer les plus grandes maisons, les plus grandes voitures, c'est chercher l'Esprit Saint à vivre par la volonté de Dieu, dans sa volonté, mu, dirigé par son esprit, et nous aurons la joie, la paix. Et c'est ça le véritable royaume de Dieu, c'est ce que nous devrions désirer. Avoir toujours foi en Dieu et le laisser nous remplir de son esprit, nous faire fonctionner par son esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons après le royaume. On passe à la lettre S. Il y a le mot sacrificateur. Sacrificateur, nous en avons déjà parlé. Sacrificateur a pour synonyme le mot, synonyme de sacrificateur, prêtre. Donc un sacrificateur, c'est un prêtre. Donc c'est la même signification. C'est les personnes qui sont censées amener le peuple vers Dieu, en suppliant Dieu, en priant Dieu, en faisant des sacrifices, d'où le mot sacrificateur. Donc ils font des sacrifices à Dieu. Et autrefois, nous faisions des sacrifices des animaux, ce que continuent à faire d'autres personnes, mais aujourd'hui, le sacrifice unique étant accompli par Jésus-Christ, nous n'avons plus à refaire des sacrifices d'animaux, puisque Jésus-Christ a été déjà sacrifié, son sang a coulé. Et c'est ça la grande différence entre ce que nous appelons aujourd'hui, nous, quand on se réunit, on appelle ça soit réunion de prière, soit culte d'adoration. On utilise à peu près ces termes-là, réunion, culte, assemblée, moment de prière. Ce n'est pas la même chose que messe. Donc, messe veut dire sacrifice, puisque dans le système catholique, quand ils se réunissent, quand ils appellent ça messe, ça veut dire qu'ils vont faire le sacrifice du Seigneur. Ils vont recommencer ça. Donc, pour eux, quand le prêtre tient le pain, il fait la prière et dit « Fais que ça devienne le corps de Jésus ». Donc, pour eux, ils recommencent le sacrifice de Jésus par le pain. Ça s'appelle la transsubstantiation. Donc le pain, là, devient un corps humain. Et donc quand tu manges ça, tu deviens cannibale. C'est pourquoi, quand quelqu'un te dit, tu vas à la messe, tu dois le corriger, dire, non, je ne vais pas à la messe, je vais au culte. Et beaucoup ont laissé faire en disant, mais croyant que messe veut dire culte. Ah non, messe veut dire sacrifice. Donc quand quelqu'un te dit, parce qu'il ne connaît pas, parce qu'on se dit, on ne corrige pas, parce qu'il ne connaît pas, c'est un inculte, c'est un païen, il ne sait pas. Non, on doit corriger parce que c'est nous faire aller, nous faire accepter quelque chose qui n'est pas bon. Donc, messe, nous, on ne fait pas de messe, on fait des réunions de prière. des réunions d'études bibliques, des cultes d'adoration, voilà, des moments de louange, ce n'est pas des sacrifices, puisque un seul sacrifice a été fait, c'est le sacrifice de Jésus. C'est ce qui est écrit dans Hébreux au chapitre 10, au verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande. Donc l'offrande de Jésus a suffi pour tout régler. Hébreux 10, 14. Une seule offrande a suffi. Donc ce qui fait qu'on n'a plus besoin de répéter des sacrifices. Cette seule offrande de Jésus suffit pour le pardon des péchés passés, présents et à venir. Et d'ailleurs, toute la thèse du livre d'Hébreux, c'est ça, montrer qu'à partir du sacrifice de Jésus, c'est fini les sacrifices. On n'a plus à en faire, puisque Jésus est le sacrifice ultime et le seul valable, parce que les autres, c'était juste en attendant. Voilà. Donc, c'est cela. Donc, sacrificateur, c'est celui qui faisait le sacrifice. Donc, aujourd'hui, Dieu a fait de nous tous des sacrificateurs. C'est nous les chrétiens, les enfants de Dieu. Apocalypse 1, 6 nous le dit, et je crois Apocalypse 5, 9. Donc, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, chacun d'entre nous est un sacrificateur parce que chacun d'entre nous peut, par sa prière, parce qu'aujourd'hui, notre sacrifice, c'est les prières. C'est les prières, c'est les paroles que nous sortons de nos bouches. Pourquoi ça peut être apparenté à des sacrifices? Parce que nous sacrifions de notre personnalité en priant. Quand nous prions, nous nous humilions. Parce que quand quelqu'un sacrifiait son animal, il montrait sa petitesse par rapport à la personne à qui il sacrifiait. Parce que c'est mon animal, entre guillemets. C'est mon bétail. Et je veux prendre mon plus bel agneau, j'amène ça, je sacrifie. Donc, je veux montrer par là que la personne devant qui je sacrifie est élevée, est au-dessus, et qu'il règne sur ma vie, puisque je peux lui donner mon plus bel animal. Donc, maintenant, nous, quand nous prions, quelque part, nous reconnaissons que nous sommes petits. Quelque part, pour certaines personnes qui sont autour de nous et pour nous-mêmes, parfois ça fait mal de se dire, mais j'ai besoin de demander la permission à Dieu pour ceci. J'ai besoin de son aide pour cela. J'ai besoin de lui. Donc, ça nous brise. Ça nous humilie. Donc, c'est ça maintenant nos sacrifices. C'est les prières. Que nous pouvons monter vers Dieu, parfois en colère, mais nous nous humilions quand même. Et donc nous devons apprendre à faire cela, mais on ne tue plus d'animal, parce que Jésus-Christ a été sacrifié une fois pour toutes. C'est ça que, en tant que sacrificateur, nos prières sont entendues parce que nous venons au nom de Jésus. Nous rappelons à Dieu toujours le sacrifice de Jésus. Nous disons à Dieu, le sacrifice de Jésus nous autorise à te parler. Nous devenons des intercesseurs, donc des intermédiaires entre Dieu et les hommes pour dire à Dieu, mais écoute la souffrance des hommes, vois la souffrance des hommes, fais quelque chose. Et nous nous autorisons à venir te parler parce que Jésus-Christ, à la croix, a déjà payé pour le péché de toute l'humanité. C'est pourquoi nous pouvons venir te dire, fais quelque chose à cause de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, priez en mon nom. Donc le sacrifice de Jésus, Jésus le souverain sacrificateur, s'est sacrifié lui-même. Donc il est à la fois le souverain sacrificateur et il est à la fois le sacrifice, l'agneau. Il s'est sacrifié lui-même. Et nous prenons cette œuvre-là, nous amenons devant Dieu pour dire, regarde, ton fils s'est sacrifié pour que nous ayons la vie, nous ayons la victoire. Nous chantions bien, pour que nous prêchions bien, pour que nous soyons dans la pureté, Seigneur. Alors agis à cause de ce que ton fils a fait. Voilà comment nous prions en tant que sacrificateurs, en tant que prêtres. Nous tous, nous sommes prêtres, nous tous, nous sommes intercesseurs. Voilà, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, nous pouvons parler à Dieu directement. directement. Maintenant, ça n'empêche pas que nous demandions l'aide des frères dans la prière, l'aide des serviteurs de Dieu dans la prière, mais cependant, nous pouvons prier directement. Ce ne sont pas des intermédiaires, ce sont des accompagnateurs, mais pas des intermédiaires. C'est ça la différence, puisque c'est nous qui sommes tous devenus des intermédiaires entre l'humanité et Dieu. Dieu a fait de nous tous des sacrificateurs. D'ailleurs, quand on comprend l'origine des choses, on n'est pas étonné, parce que dans Exode 19, Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'il voulait faire de tous des sacrificateurs, un peuple saint. Mais puisqu'ils n'ont pas écouté sa voix, il n'a choisi que la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, finalement, il n'a pris que les enfants, les descendants d'Aaron. Aujourd'hui, tout cela est fini. Maintenant, les sacrificateurs, ce sont ceux qui ont cru en Jésus et qui peuvent, au nom de Jésus, se poster devant le Père, lui parler des problèmes de l'humanité. Voilà. Question.
Spirituellement, bon, on sait que c'est dans le fou, là, mais les catholiques qui font la messe puis tout ça et qui ne savent pas ce qu'il en est, quand on essaie de leur expliquer que ce n'est pas bon, c'est pas biblique tout ça, eux ils pensent peut-être à quelque part qu'ils font comme nous, tu sais, on rappelle la mort et la résurrection de Jésus, ils réalisent pas ce que la messe est en train de faire.
Oui, oui, ils ne réalisent pas. Le peuple qui vient là ne sait pas, mais les prêtres le savent.
Les prêtres le savent. Donc, ils sont vraiment en contradiction. Ben, c'est pas la première chose, mais ils sont réellement en contradiction avec tout ce que Hébreu explique. Oui. Et ça les lie spirituellement à des esprits de mensonge, ou ça fait quoi?
Non, non, pas forcément, pas seulement des esprits de mensonge. C'est de la magie, puisque en dehors du sang de Jésus, tous les autres qui font le sang à gauche, à droite, ils font ça dans un rituel. C'est un rituel magique qui apporte de la puissance à ces gens-là. Et donc, moi, je connais par exemple William Schnobelen, quand il était grand sorcier de Satan, quand il n'avait pas de sang à boire, parce qu'il attrapait les prostituées, il était devenu vampire. Donc, il attrapait les prostituées pendant la nuit et il s'accrochait à leur cou. Et il prenait du sang. Et quand il n'avait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait faire la messe. Donc, d'une manière spirituelle, il produisait du sang en faisant la messe dans un bâtiment catholique. Donc, quelque part, c'est une forme de sorcellerie que ce qui se passe tous les dimanches à travers ce qu'on appelle la messe. Et ce qui est grave, c'est que, vous savez que, pour vous montrer vraiment que c'est vraiment une cérémonie spéciale, c'est que la messe peut se faire sans qu'il y ait personne, sans qu'il y ait quelqu'un. C'est-à-dire que le prêtre peut aller tout seul, il fait la messe. C'est la preuve qu'ils ne le font pas comme nous, on penserait que c'est pour prêcher, c'est pour prier ensemble. Non, 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 c'est une cérémonie à part. Donc les histoires qui prêchent après au milieu, ça c'est autre chose. Mais la messe en soi, c'est une cérémonie. Moi, j'avais un oncle qui était prêtre et je l'accompagnais juste pour qu'il dise la messe. Ils appellent ça dire la messe. Il n'y avait aucune il y avait personne dans la chapelle. Il était tout seul. Il faisait tout comme quand il y a des gens. Donc, il parle, il fait le truc, il fait, et il coupe, il mange, et voilà. Donc, heureusement, à l'époque, on était des païens cachetés. Je ne participais pas, je regardais seulement. Mais c'est, il disait la messe et il n'y avait personne. Il dit la messe. Donc William Schnobelen, c'est ce qu'il faisait pour retrouver de la puissance. Il disait ça. Il allait faire, pour trouver du sang, il allait faire la messe.
Et est-ce que les autres prêtres sont conscients qu'ils sont en train de faire de la sorcellerie?
Pas tous. Il y a certains, le noyau dur qui est conscient, mais pas tout le monde.
Si les prêtres ne sont pas nécessairement conscients et les personnes qui vont à la messe ne sont pas conscients, c'est difficile à les convaincre de ce qu'on est en train de dire.
C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut les convaincre que c'est une erreur. Voilà. Nous comptons sur lui. Voilà.
Oui, moi j'ai une question par rapport au royaume, pour revenir un peu en arrière. Par rapport au royaume, parce que donc il y a le royaume des cieux qui est dans les cieux, et le royaume
on de
doit
Dieu.
Vivre le royaume de Dieu ici, bas sur terre. Ou bien
non, le royaume de Dieu, c'est tout l'ensemble, parce que Dieu règne partout.
Bon, parce que ceux qui prêchent un peu le. Ceux qui prêchent.
Le kingdom now.
Voilà.
Le royaume maintenant.
Et la prospérité, tout ça, parce que eux, donc eux ne le comprennent pas comme ça. Eux, pour eux, on doit régner ici-bas, être appelé des princes et tout
voilà,
ça.
Voilà, avoir des amers.
D'accord. Ouais,
des Rolls Royce. Puisque le royaume, nous sommes dans un royaume et notre père, c'est le roi. Donc forcément. Bon, mais ça veut dire quand même qu'on a un bon retard de plus de milliers d'années où les païens restent les chefs. Je dis, mais ce père-là, il va se réveiller quand en tant que roi? Parce que ça fait des milliers d'années que c'est les païens qui sont les plus riches. C'est eux qui sont les présidents. C'est eux qui sont les rois. Donc, ça, soyons sérieux, ça montre bien que ce n'est pas le système de notre père. Parce que Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Donc on a lu encore, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec être le président, être riche. Pour eux, c'est ça. Or, le Seigneur nous dit en plus qu'on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Donc, or, eux, ils disent que c'est quand on a l'argent qu'on est dans le royaume de Dieu. Donc c'est vraiment, ils sont en contradiction. C'est des grands, grands, grands sorciers. Voilà. Donc c'est ça la réalité, nous devons... nous sommes maintenant des sacrificateurs, nous devons apprendre à prier pour les autres. Parce qu'il y en a qui veulent seulement qu'on prie pour eux. Donc eux, ils sont plus sacrificateurs. C'est eux seulement, on doit s'intéresser à eux. Mais non, quand on a demandé l'aide des frères, nous aussi on doit prier pour les frères. On a demandé l'aide des sœurs, nous aussi on doit penser à prier pour les personnes. Parce que nous aussi on est sacrificateurs. Ils nous ont aidés dans la prière. Nous aussi, on doit les aider. Même s'ils ne sont pas au courant, on n'est pas obligé de faire la pub. Mais on doit prendre conscience que Dieu a besoin de moi pour soutenir le pasteur. Il a besoin de moi pour soutenir l'ancien. Il faut que je prie pour lui parce que je suis sacrificateur. Voilà. Quand tout le monde fait ça, nous sommes tous forts. Mais si dans l'idée de certains, c'est eux seulement les bébés, on doit s'occuper, bon, c'est sans fin. Donc la difficulté... Donc nous devons prier les uns pour les autres. Parce que comme nous tous, nous avons ce titre-là de sacrificateur, cette importance vis-à-vis de Dieu de sacrificateur, nous devons utiliser ça pour tout le monde. Oui.
Oui, pasteur, nous savons que dans 1 Timothée 2, 5, il dit que « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Quand tu as parlé de intermédiaire, est-ce que tu peux expliquer notre limite de rôle d'intermédiaire et le relais que joue Jésus en tant que en tant qu'intermédiaire aussi auprès du Père?
Alors, la différence entre nous et Jésus, c'est que Dieu ne peut nous écouter qu'à cause de Jésus. Alors que toi, tu peux prier sans citer mon nom, Dieu t'écoute. Mais si tu ne cites pas Jésus, il ne t'écoute pas. Donc, tu viens le prier parce que Jésus s'est sacrifié à la croix. C'est pourquoi Jésus a dit, priez à mon nom. Parce que sinon, Dieu, de quel droit toi, tu vas prier Dieu? Nous pouvons venir nous adresser à lui parce que son fils. Alors, ce n'est pas une obligation de dire au nom de Jésus, mais c'est quand même... important, parce qu'il y a certains qui prient sans citer Jésus. Mais de quel droit tu peux prier Dieu? Nous prions Dieu parce que Jésus s'est sacrifié à la croix, il est parti dans le tabernacle éternel, il a versé son sang, nous sommes pardonnés, désormais le rideau est déchiré, nous pouvons parler à Dieu. Donc nous devons nous présenter devant lui et dire, mais non, Je me présente, moi, tu sais que tu peux beaucoup dire sur moi, Dieu, mais attention, Jésus a été crucifié pour moi à la croix, donc tu ne peux plus rien dire pour moi. Écoute-moi maintenant, Père éternel. Voilà. Donc c'est Jésus qui nous donne cette autorisation-là. De sorte que, c'est pourquoi Satan n'aime pas le nom de Jésus. Parce que dès que tu dis le nom de Jésus, tu as l'autorisation. Donc, il ne peut plus rien. Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit au Père? Mais comment ce monsieur-là vient te prier? Il y a 15 jours, il a péché. Mais Dieu dit, mais il a cité le nom de Jésus. Donc quand Satan entend ça, il dit, bon, on fait quoi? Demi-tour. Je me souviens de l'histoire de nos bien-aimés en Indonésie qui sont partis dans un village. Personne ne va dans ce village-là, même pas les chrétiens. Parce que tout le village, c'est des magiciens, des sorciers. Mais eux, ils ont reçu l'appel d'aller là-bas. Ils arrivent là-bas, ils prêchent, ça crée des polémiques. Ils ont dit, on va simplifier les choses. Réunissez tous les villages au centre du village et on va voir quel est le Dieu véritable. Votre faux Dieu ou bien notre Dieu. Ils ont réuni tous les villages. Et les chrétiens, là, comme ils avaient la foi en Jésus, la foi, ils ont dit, Seigneur, au nom de Jésus, nous commandons à tous les esprits qui sont dans ce village-là de s'en aller, de quitter ce village. Et le chef du village était avec tous. Vous savez, ils font un peu de scarification, tout ça. Et ils voulaient faire le costaud. Eux, ils ont prié comme ça. Après, ils se sont assis. Ils ont commencé à chanter, louer Dieu, c'est tout. Ils n'ont pas, parce que je pense que beaucoup d'entre nous, si on se retrouvait dans ces conditions-là, il y en a qui vont faire des sauts périlleux en priant, croyant que c'est en faisant des sauts périlleux, il y en a qui vont essayer de sauter, tenir le plafond pour prier. Non. Et ils ont dit tout simplement, nous commandons aux esprits. Ils savaient qui ils étaient, hein, sacrificateurs de l'Éternel. Nous commandons aux esprits qui sont là de sortir, de quitter ce village. Ils n'ont pas dit de quitter un homme. Le village. 10 minutes après environ, le chef du village commence à transpirer, à suer à grosses gouttes. Il dit, je veux me convertir à Jésus. Oh, mais les chrétiens n'ont pas sauté de joie, comme l'aurait fait le Saint-Esprit d'entre nous ici. Ils auraient dit Amen avant le temps. Jean-Baptiste n'a pas dit Amen quand les gens venaient. Hein. Il dit, mais pourquoi vous venez? Pourquoi vous venez? Nous, on cherche tellement le résultat qu'on dit Amen avant le temps. Et ils ont dit, mais pourquoi tu veux te convertir? Il a dit, quand vous avez cité votre ordre là, j'ai entendu, puisque lui, il coopérait avec les démons, je les ai entendus dire, plions nos bagages, allons-nous-en, Jésus ne veut plus de nous ici. Ils ont dit, Jésus ne veut plus de nous ici. Ils ont plié le bagage, ils ont quitté le village. Le village s'est converti en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est ça. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on cherche? L'accord de Jésus. Voilà, nous, quand on est intermédiaire, on est entre l'humanité et Dieu. C'est-à-dire, on peut prendre les problèmes de l'humanité et citer à Dieu. Mais nous ne sommes pas des intermédiaires incontournables. L'intermédiaire incontournable, c'est Jésus seul. Voilà. Nous continuons, sacrificateur. Après, il y a le mot saint. Donc, le mot saint, ça veut dire mis à part. Donc, ça ne veut pas dire pur dans le sens que tu ne pèches pas. Ça veut dire mis à part. Donc, tu y es pour Dieu. Donc, on a le très bon exemple avec le jeune homme riche. Ce jeune homme riche, aucun d'entre nous ne pouvait l'attraper avec un péché. Parce qu'il accomplissait toute la loi. Donc, dans le niveau humain, il était supérieur à tout le monde. Il accomplissait tout. Mais on lui a dit, vends tous tes biens et suis-moi. Il était pur sans être saint. Donc, il n'était pas à Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont purs, mais ils ne sont pas saints. Parce que quand Dieu va leur demander, leurs bras, ils refusent. Quand Dieu va leur demander leurs études, ils vont refuser. Quand Dieu va leur demander leur argent, ils vont refuser. Donc, ils sont pas, ils font juste ce qu'il faut pour obéir aux commandements visibles. Mais ils ne sont pas à Dieu parce que quand Dieu va leur dire « Mais je te veux dans tel endroit », ils n'y vont pas. Quand Dieu va leur dire « Je ne veux plus que tu fasses telle chose », en fait, tant que ce n'est pas un péché écrit, On dit, mais non, ce n'est pas un péché. Moi, je veux faire ça. Mais oui, mais Dieu ne veut pas pour toi. Mais, donc, c'est ça la différence entre sainteté et pureté. Pureté, tu peux, tu ne pêches pas, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne fais pas ceci. D'accord. Mais est-ce que quand Dieu t'a demandé de te taire, est-ce que tu t'es tué? Tu vas dire, mais je n'ai pas dit une mauvaise chose. Oui, mais Dieu voulait quand même que tu te taises. Même ce que tu as sorti n'est pas une mauvaise chose. Mais lui voulait que tu te taises. Donc tu n'es pas saint, tu n'es pas mis à part, tu n'es pas à Dieu. Voilà. Tu es à toi-même, mais tu es pur. Parce que tu ne pêches pas selon les humains, mais tu pêches selon les attentes du Seigneur. Mais selon la loi, selon les commandements, tu ne pêches pas. Si Dieu te demande d'arrêter de travailler, mais nous les humains, nous ne voyons pas. Toi, quand tu continues à travailler, à nos yeux, tu ne fais aucun péché. Donc, à nos yeux, tu restes correct et pur. Mais c'est Dieu, lui, qui t'a demandé dans ta communion avec lui, tu sens bien qu'il ne veut pas. Et tu vas trouver toutes sortes d'arguments. Mais oui, mais mon mari a dit ceci. Mais oui, voilà. Donc, on va toujours trouver d'excuses, mais au fond de nous, on sait ce que Dieu attend de nous. Pour beaucoup de choses, on trouve des excuses. Mais les excuses sont même la preuve que nous résistons à la voix de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne résiste pas à la voix de Dieu, Dieu lui trouve la défense auprès des autres. Ce n'est pas lui-même qui se défend. Quand nous nous défendons nous-mêmes, c'est la preuve que nous résistons à la voix de Dieu. Si nous sommes dans la voie de Dieu, c'est Dieu qui doit nous défendre. Donc même dans nos échanges avec les autres, faisons attention à faire la différence entre dire la vérité et se défendre. Souvent, nous croyons que nous disons la vérité, mais en réalité, on se défend. On va dire la vérité lorsqu'on considère que l'autre n'a pas tous les renseignements. On lui donne tous les renseignements. Mais quand on sent que malgré les renseignements qu'on a donnés, l'autre continue à nous accuser de ceci, de cela, on dit que Dieu seul me défende, puisque moi, j'ai mon comportement à cause de Dieu. Là, je ne veux pas passer l'étape de la défense. Je reste dans l'étape de dire la vérité. Donc, on dit la vérité et on laisse Dieu nous défendre. Quand tu te défends, c'est que tu n'es pas dans la voie de Dieu. Parce que Dieu est incapable de te défendre. Si tu le sers, il va te défendre. Donc, apprenons cela. Et le saint, c'est celui-là. Quand Dieu lui dit de se taire, il se tait. Quand Dieu lui dit de parler, il parle. C'est ça. Il appartient à Dieu. Il est mis à part. Sa vie, c'est pour Dieu. Ce n'est pas une question de commandement, c'est sa vie. C'est sa vie qui est pour Dieu. Ce n'est pas une histoire de ne pas voler. C'est pourquoi beaucoup de gens disent, eh « Oui, mais moi, je ne vois pas pourquoi je vais me convertir. Je ne vole pas, je ne mens pas. » Oui, mais aller au ciel, il faut être saint. Ce n'est pas une question de ne pas voler, de ne pas mentir. Dans ce cas que tu ne meurs pas, si tu meurs, c'est que tu as toujours un problème. Mais on ira, le Seigneur veut nous sanctifier, nous mettre à part pour lui, que nous vivions pour lui, que nous existions pour lui, pas pour nous. C'est ça la sanctification. Donc quand on nous appelle saints, c'est dans ce sens-là, ce n'est pas dans le sens que nous sommes parfaits, nous ne pouvons pas pécher, non. C'est dans le sens que quelqu'un mène une vie où ce n'est plus lui qui vit. C'est Jésus qui vit, c'est Jésus qui dirige sa vie, c'est lui qui donne les instructions. Et lui-même aussi, avant d'avancer chaque pas, il s'intéresse à la volonté de Dieu. C'est ça un vrai saint. Et le Seigneur veut que tous nous soyons saints. Comme lui-même, il est saint, il est mis à part, il reste dans la vérité, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la droiture. Il est lui-même saint. Nous devons être saints comme il est saint. Un autre mot, c'est la sainte scène. C'est le repas que le Seigneur a pris à la fin. Et c'est un repas qui se prenait avant lui. C'était le repas de la Pâque. Donc, qui commémorait la sortie de l'Égypte. Et donc, le Seigneur nous demande de faire ça maintenant dans la logique de son sacrifice. Il explique clairement, il dit que ceci est mon corps. Quand il donne le pain, il dit ceci est mon corps. Et quand il donne le vin, il dit « Ceci est mon sang ». Donc l'explication de la scène, c'est le corps de Jésus et le sang de Jésus, le corps qui est brisé, crucifié à la croix, pour notre salut, et ce corps qui est en même temps, cette parole, lui-même il dit que si quelqu'un ne me mange pas, il ne peut pas être sauvé. Donc, ce corps qui symbolise sa parole, si quelqu'un n'intègre pas sa parole, qui ne mange pas sa parole, il ne peut pas être sauvé. Donc, c'est ça, il dit, moi je livre mon corps. Et on a vu que le jour où il a été crucifié, le voile a été déchiré. Et dans la Bible, c'est dit que ce voile-là, c'est son corps. Donc, le corps de Jésus étant déchiré, donc finalement, on pouvait passer à travers pour aller auprès de Dieu. Il dit, voilà, je livre mon corps, je vais déchirer afin que vous ayez la capacité d'aller dans la présence de Dieu. Et voici mon sang qui va couler pour le pardon des péchés. Donc le corps barrait la voie vers Dieu. Il est déchiré, on peut passer vers Dieu. Et le sang effaçait les péchés. Donc, c'est ça pourquoi nous commémorons la scène, c'est à cause de ça. Nous rappeler l'œuvre du salut et aussi la venue prochaine du Seigneur. Parce que notre vrai salut, ce n'est pas sur terre. Le salut total se manifestera au paradis. C'est ça, c'est en ce moment-là que le salut total se manifestera. Donc quand nous célébrons la scène, nous nous préparons à cela en même temps. Nous nous préparons à cela en même temps. Ça nous rend éveillés, la Sainte Cène. Ça doit nous rendre éveillés. Donc il faut dire qu'on y pense lorsqu'on prend la Sainte Cène et les gens qui dirigent la Sainte Cène. Il faut que ça nous rende éveillés dans la façon dont nous présentons les choses, que ça nous réveille par rapport à l'attente de la venue du Seigneur. Et bien sûr, la scène, ça symbolise donc le corps et le sang. Et autrefois, puisque c'était un repas de Pâques, les Juifs, quand le Seigneur est parti, continuaient à faire comme avant. C'est-à-dire, c'était un repas. Et dans ce repas-là, il y avait la cérémonie en même temps. Mais l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11 que puisqu'il y a du désordre, donc les gens, pendant ce repas, ils commencent à se goinfrer, ils commencent à faire de la gourmandise. Donc il faut qu'on s'arrête au symbole, qu'on n'insiste pas sur le côté repas, qu'on s'arrête sur le symbole. Le pain et le vin, côté symbole, et pour ce qui concerne se remplir le ventre, manger sérieusement, que chacun mange chez lui. Voilà. Ce qui explique que nous fassions la scène avec des petits morceaux. Bon, on a quand même protesté dernièrement qu'on puisse grandir un peu les morceaux, mais ça ne suit pas à 100%. Il faut quand même essayer d'agrandir un peu. Mais c'est pourquoi on fait avec des petits morceaux et avec un peu de jus de raisin en symbole, parce que voilà, si on transformait ça en repas, il va y avoir des déviations, des abus. Donc pour éviter ça, on préfère garder le côté symbole et en ce qui concerne le repas que chacun mange chez lui. Voilà, aujourd'hui il y a toutes sortes de doctrines qui viennent pour s'imposer, pour dire « Ah non, il faut manger. » Mais ce n'est pas manger que nous célébrons. Nous ne célébrons pas la nourriture, nous ne célébrons pas le repas. Nous commémorons l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Le pain qui symbolise son corps qui a été déchiré, le sang qui a coulé, le vin qui symbolise le sang qui a coulé. Donc on n'est pas là, ce n'est pas le repas que nous visons. Nous visons ce rappel-là. Et c'est pourquoi Paul a dit, en ce qui concerne le repas que chacun donc, mange chez lui. C'est cela qu'il faut expliquer. Donc c'est écrit dans 1 Corinthiens 11, ce que je dis là. Donc on peut lire 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. On peut commencer à partir du verset 17. En donnant cet avertissement, parce qu'il y a aussi ce côté-là, attention, puisque Jésus a tellement souffert pour notre salut, quand on prend la Sainte Cène, il faut être conscient de tout cela. Donc j'ai été sauvé pour ressembler à Dieu, pas pour faire de la religion. Tout ce qui prennent la Cène d'une manière religieuse encourt des conséquences graves. C'est ce qui est donné au partir du verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Voilà, donc le frère préconise que si quelqu'un a vraiment faim, si quelqu'un veut manger, qu'il mange chez lui, mais qu'on se réunisse pour le repas du Seigneur, le côté pain et le côté vin. Pas le côté repas, mais le côté pain et vin. C'est ça qui est important et que ça doit être pris avec conscience de ce que nous faisons. Nous vivons pour être les véritables enfants de Dieu. Nous considérons le sacrifice de Jésus. Et celui qui ne prend pas ça au sérieux, c'est quelqu'un qui peut subir le jugement de Dieu. Parce que ça voudrait dire qu'il s'est moqué de l'œuvre de Jésus-Christ. Il subit le jugement de Dieu. Toutefois, ce n'est pas un jugement, comme on vient de lire, ce n'est pas un jugement définitif, c'est un jugement de correction, correctif, pour amener la personne à se repentir et à se donner à Dieu à 100%. Donc prenons au sérieux la scène et nous verrons vraiment le fruit de l'œuvre du Seigneur s'accomplir. Quand je dis prenons au sérieux, ça veut dire qu'il faut le prendre, il faut faire ça, parce qu'il y en a qui ont trouvé l'excuse magistrale de ne pas prendre la Sainte Cène parce qu'ils n'ont pas encore arrangé un problème ou un tel autre. Mais si Jésus revenait en ce moment-là, moi je pense que quand on se retrouve confronté à la Sainte Cène, au lieu de dire « je ne veux pas prendre le temps que j'arrange mon problème », arrange ton problème avant. Décide de changer totalement. Bien-aimé, il ne faut pas laisser de repos au diable. Il ne faut pas laisser de repos au péché. Eux, ils ne nous laissent pas du repos. Souvenez-vous, le péché et le diable ne nous laissent pas du repos. À tout moment, ils nous embêtent. Donc, nous aussi, ne leur laissons pas du repos. Donc, à chaque fois, c'est vrai que la voix du diable va te dire, mais tu as attendu seulement d'être devant la Sainte Cène pour te repentir. C'est zéro, ça. Tu dis, oui, j'en profite. Voilà, pour me repentir, pour changer de vie. Voilà. Mais au lieu de dire, bon, je ne prends pas. Quand on arrive avec la scène, oh, mais pourquoi tu préfères rester dans le péché? Non! N'écoute pas la voix de la honte, de la chair qui te dit, mais tu fais ça seulement pour prendre la Sainte Cène. Non. Toi, prends une vraie décision de changer. Profite de cette occasion-là. Profite de cette occasion. Et parfois, y a, même en famille ou dans le monde, parfois, tu vas demander pardon à quelqu'un ou bien tu vas revenir à de bons sentiments. Les gens disent, si tu fais ça, c'est que tu cherches un intérêt. Et parfois, les gens, quand on leur dit ça, ils reculent, ils se fâchent à nouveau. Moi, je dis, mais voilà. Donc tu n'étais pas vraiment transformé. Parce que si tu étais vraiment transformé, tu vas dire, ce n'est pas pour un intérêt. C'est vraiment sincère, mais ce n'est pas grave. Mais il y a des gens, dès qu'on leur dit ça, tu fais ça parce que tu manques d'argent. Allez, explosion. Tu fais ça parce que tu sais que tu as besoin d'une robe. Allez, explosion. Mais donc, c'est que c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, tu dis non, ce n'est pas vrai. Je fais ça parce que, voilà. Et même si tu dois penser que c'est à cause de ça, mais mon changement est vrai, même si je profite de cette affaire-là pour changer. Mais mon changement est vrai. Bien-aimés, ne laissons pas du repos au péché de la même manière que lui aussi ne nous laisse pas du repos. Tant qu'on peut se repentir, repentons-nous. N'écoutons pas la voix qui dit, mais non, tu le fais tout le temps, ce n'est pas grave. Vous nous faites tout le temps, nous aussi, on va demander pardon tout le temps. Voilà, comme ça, à chaque fois, tu es tranquille, tu es pur. Au lieu de dire, les frères ont souffert en faisant la Sainte Cène, ils arrivent là. Ah non, non, non. Mais non, 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 pourquoi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire? Parce que si nous, on était des anges, on sortirait les gens, donc, comme les anges sont invisibles, on te prend d'une manière invisible, on te sort. Parce que, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Si tu es venu, c'est pour recevoir la vie, pour recevoir la sainteté, pour changer. Maintenant, j'ai le mot en Sainte-Cène. Oh. Heureusement, nous sommes des humains, on est limités, et Dieu nous enseigne l'amour, la patience. Mais si on avait le pouvoir des anges, tu viens vraiment d'une manière invisible, vous tenez la personne comme les policiers, quelqu'un prend d'un côté, l'autre prend de l'autre, vous le soulevez, allez, dehors. Parce que tu es venu faire quoi ici? Au moment où on célèbre le moment le plus important de notre culte. C'est ça le moment le plus important, le moment où on se rappelle la permission qu'on a reçue d'être entré dans la présence de Dieu. C'est le moment-là que toi tu bloques. Ah, mais donc tu es venu faire quoi? Donc, examinons-nous, changeons, et ainsi on sera cohérent. Ok, nous clôturons avec le mot « sang ». Ben, je crois que c'est un mot que nous employons régulièrement, mais en faisant référence qu'au sang de Jésus-Christ. Parce qu'avant le sang de Jésus, c'était le sang des animaux, mais comme c'était écrit dans le livre d'Hébreux, ça ne servait qu'à couvrir les péchés, ça n'effaçait pas les péchés. Alors, mais on peut se poser la question, mais pourquoi le sang aurait cette importance? Parce que tout à l'heure, même quand on a parlé des magiciens, des satanistes, eux aussi, ils utilisent le sang. Voilà. Pourquoi le sang aurait cette importance-là? Donc, nous lisons dans Lévitique, chapitre 17, verset 10. Lévitique 17, verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait expiation. L'explication est donnée. Au fait, c'est parce que un animal, un être vivant, un être humain, sans son sang, est mort. Que le sang a cette importance. Et je pense que ceux qui ont fait un peu de biologie savent que c'est par le sang que nous respirons. Donc, quand on respire, c'est le sang qui prend cet oxygène et qui emmène ça dans tout le corps. Quand on mange, c'est le sang encore qui prend cette nourriture qui emmène dans tout le corps. Donc, le sang sert à tout. Les médicaments passent par le sang. Donc, tout passe par le sang. L'eau passe par le sang. Et dans le sang se trouve la vie. Vous voyez que c'est vraiment Dieu qui a créé les humains. Parce que là, ce n'est pas écrit au temps où il y a la technologie, où il y a on comprend la biologie. Non, c'est écrit depuis longtemps. Mais Dieu dit déjà que la vie se trouve dans le sang. Mais maintenant, après, avec nos études, nous le comprenons très bien. Que quand on n'a plus le sang, dès que quelqu'un s'est fait vider de son sang, il meurt. Il meurt. C'est dans le sang que se trouve la vie. C'est pourquoi le sang est si important. Parce qu'il porte la vie. Et donc, quand on sacrifie un animal, en quelque sorte, c'était une façon de dire, c'est ce que lui-même le Seigneur dit, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Donc, c'est comme si la vie de l'animal est donnée à la place de vos vies. Voilà. Donc, le sang symbolise cela. La vie de l'animal est donnée. Or, une vie, ce n'est pas comme nous voyons juste un corps. Une vie, c'est beaucoup d'autres choses. Et cette vie-là est donnée par le sang. Une vie, c'est beaucoup d'autres choses parce que qui a fait les immeubles, les grands bâtiments? C'est des vies qui ont fait tout ça. Les grands ponts, c'est une vie. Les découvertes scientifiques, c'est des vies qui ont fait ça. Ce n'est pas notre matière qui fait ça. Donc, nous sommes une vie. Mais cette vie-là est dans le sang. Et donc, quand une vie meurt, je parle en termes humains, hein, c'est un grand pouvoir qui s'en va, qui est dépensé. Comme aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons, il suffit de prendre un kilo d'uranium, par exemple, un kilo d'uranium. On fait casser les noyaux de cet uranium-là, donc on casse les noyaux. Ça peut produire une énergie qui peut nous faire utiliser l'électricité pendant des années. Donc, un peu de matière seulement. Un peu de matière, les gens qui ont fait un peu de physique connaissent la formule énergie égale matière fois vitesse de la lumière au carré. Donc, un peu de matière peut produire une énergie immense, immense, immense. Juste un peu de matière, mais il faut savoir comment trouver comment obtenir ça. On n'a pas tous ces moyens-là de casser la matière pour obtenir cette énergie. Mais ça a été démontré par les bombes atomiques. C'est ça le principe des bombes atomiques, tout ça. C'est qu'avec un peu de matière, si vous savez l'employer, et c'est comme l'uranium, c'est une matière qui est facilement employable dans ce sens-là, c'est pourquoi on utilise l'uranium. Donc avec un peu de matière, si vous savez vous y prendre, vous pouvez produire beaucoup, beaucoup d'énergie. Bon, maintenant, comparer avec la vie. La vie, c'est beaucoup, beaucoup de puissance spirituelle, beaucoup de puissance. Dieu a mis beaucoup de puissance dans la vie. Ce qui fait que quand une vie est donnée, ça produit beaucoup d'effets. Beaucoup d'effets. On voit par exemple tout un pays qui a connu l'indépendance par la vie d'une personne. On voit avec Gandhi, il a donné sa vie et le pays a eu l'indépendance. Il n'avait pas de garde du corps, armée, tout ça, mais c'était sa vie. Parfois, il ne mangeait pas pendant 30 jours parce qu'il était. Il voulait que les gens s'entendent. Et puis les gens finissaient par s'entendre pour qu'il y ait l'indépendance. Il a donné sa vie, il a risqué sa vie dans la non-violence. Donc, une vie, quand c'est bien utilisé, ça peut produire beaucoup, beaucoup de puissance. Et comme Dieu lui sait utiliser une vie, puisque c'est lui qui a fait tout ça. Eh bien, c'est pourquoi quand un animal meurt pour le sacrifice, ça avait son importance. Donc, dans le sang se trouve la vie. Le sang, la vie, c'est très, très important. C'est pourquoi quand Jésus donne sa vie par son sang, c'est là que toute l'humanité peut être sauvée. Parce que juste avec un peu d'uranium comme ça, on peut nourrir un peu d'énergie presque toute l'humanité. Mais imaginez maintenant par une vie, la puissance qui peut contenir une vie. C'est ça l'importance du sang. Et c'est ça qui sert aussi aux satanistes. Parce que c'est des puissances spirituelles. La vie a une puissance spirituelle. Vous voyez, quand deux personnes se battent, c'est celui qui est prêt à mourir qui gagne. Parce qu'il va tout utiliser jusqu'à être prêt à mourir. On voit avec les terroristes, une seule personne prête à mourir qui se barde d'explosifs, ben, elle toute seule, elle peut éliminer 200 personnes. Les gens qui ont éliminé 3000 personnes dans le World Trade Center, ils étaient peut-être 8. À 8 personnes, ils ont éliminé 3 personnes. Ils ont détruit tout un bâtiment, 2 bâtiments. Donc, lorsque une vie est utilisée dans le sacrifice, ça produit toujours beaucoup de puissance. C'est ce qui se passe même dans la magie. Donc, mais nous connaissons la vie la plus précieuse, c'est celle du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Son sang coulé, et vous voyez quelle importance ça va avoir. C'est ce que le frère Paul explique dans le livre d'Hébreux. Il dit, mais le sang de Jésus, ça va avoir quelle importance. Si le sang des animaux calmait déjà la colère de Dieu, pouvait faire une certaine chose, mais à combien plus forte raison le sang de Jésus. Donc tout le livre d'Hébreux est basé sur ça. Montrer l'importance du sang de Jésus. Montrer l'importance du sang de l'agneau. Oui, oui.
Oui, pasteur, le diable connaissant la valeur ou l'importance de la vie, lorsque lui, il avait échoué, c'est la raison pour laquelle il a voulu aussi tout foutre en l'air, en quelque sorte. C'est pour cela qu'il a voulu aussi semer la pollution dans la vie des humains.
Voilà, il sait qu'il fait un gros dégât vis-à-vis de la création quand il fait ça, effectivement. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est tuer la vie. Ce n'est pas te casser une jambe. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que ta vie soit morte, que ta vie soit improductive dans le monde spirituel. C'est ce qui intéresse le diable. Ce n'est pas... Les gens ont souvent peur du diable par rapport aux accidents, par rapport aux tueries, à la torture. Mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que tu perdes la foi. Ce qui l'intéresse, c'est que ta vie soit morte. Parce que quand tu as perdu la foi, quand tu ne sais plus croire en Dieu, tu es reposé sur Dieu, tu es mort. C'est ce qui l'intéresse. Donc la vie, que tu n'aies plus la vie, c'est ce qui l'intéresse. Et nous devons comprendre par là l'importance du sang de Jésus. Si le sang simple d'un individu a beaucoup d'importance, à tel point que les magiciens utilisent ça, à combien plus forte raison le sang du Fils de Dieu, le sang sans tache, qui n'a jamais péché. Voilà. C'est ce qui explique que nous sommes vraiment sauvés, quoi. Parce que on peut être confiant qu'on est vraiment sauvés, parce que le sang a une grande importance. Maintenant, le sang du Fils, ça va être comment? Puisque c'est un sang non corrompu. C'est encore une importance terrible. Terrible. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 12, 11, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimés, rappelons-nous tous ces passages bibliques-là. Nous avons vaincu. En cas de problème, rappelle-toi tout ça. Le sang du Fils a une importance infinie. Rappelons-nous tout ça. Quand nous sommes provoqués par le diable ou par les faux, par les humains, rappelons-nous que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Que personne ne nous distrait à chercher la force en nous-mêmes. La vie du Seigneur a été donnée afin que nous ayons une puissance totale. Voilà, une gloire totale. Et c'est comme ça que nous devons marcher, avec ça. Nous ne devons pas... comment est-ce que les gens finissent par avoir des gardes du corps, des voitures blindées? Parce qu'ils ont oublié le sang de Jésus. Ils ont oublié tout simplement. C'est tout. Mais quand tu sais ça, toutes ces vérités, tu Tu sais ce qu'un sang d'un humain ou d'un animal a comme importance dans le monde spirituel. Mais le sang du Fils, ça va être comment? Et quand tu sais ça, tu es vraiment tranquille. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui.
Oui, pasteur, par rapport au sang, l'interdiction de prendre et manger les animaux sans avoir fait couler leur sang, disons. Et à quel moment le Seigneur a brisé cette interdiction chez les Israélites et aussi aujourd'hui concernant les chrétiens? Parce qu'on voit beaucoup de chrétiens qui disent que il y en a beaucoup qui préfèrent manger, comme on appelle, les aliments sacrifiés au rite, comme on appelle musulman, comme halal. Ils disent que bon, c'est bien de faire couler du sang et manger les animaux. Concernant les chrétiens, qu'est-ce que tu peux dire? Parce qu'aujourd'hui, on en mange. Voilà. À quel moment il y a eu ce feu vert?
Dans Matthieu 15, le Seigneur dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui pollue l'homme, mais c'est ce qui sort. » Donc, à partir de là, les choses sont claires. Donc, le Seigneur n'est pas venu pour le manger et le boire. D'ailleurs, Romains 14, on a lu « Ce n'est pas le manger et le boire qui détermine le salut, qui détermine les choses de Dieu. » Donc, manger et boire, c'est des choses secondaires. Nous devons avoir le discernement humain simple pour gérer ça. Est-ce que ce que je mange est microbien, bactérien, ça va me tuer, ça va faire telle conséquence? On doit gérer ça avec l'intelligence que Dieu nous a donnée et bien sûr le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça qui change un humain, ce n'est pas ça qui change le cœur. Donc il y a des gens qui mangent en faisant couler le sang, qui sont des vrais méchants, des grands mauvais. Et il y a des gens qui n'obéissent pas à ça, qui sont bons, qui sont corrects. Donc, ce n'est pas ça qui change le cœur. Ce qui change le cœur, c'est la parole de Dieu. C'est la nouvelle nature, c'est la nouvelle naissance. Et donc, dans Matthieu 15, c'est écrit au verset 17. « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, oui, est jeté dans les lieux secrets ?» Et je veux commencer à partir du verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples étaient embêtés, hein? Ils étaient embêtés, c'est des juifs. S'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Ah, ça c'est des phrases compliquées. Hein? Donc, nous, parfois, on veut chercher à sauver tout le monde. Jésus lui dit, ne vous en faites pas. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils seront déracinés. Il y a bien aimé des choses que ne peuvent accepter que ceux qui sont de Dieu. Nous ne devons pas chercher à faire accepter tout le monde toutes choses. Voilà la réponse que Jésus leur donne. Hein? Ne vous dérangez pas pour les pharisiens. Il ne faut pas chercher à les convaincre. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Voilà ce qu'il dit. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole-là. Ils étaient vraiment embêtés. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Voilà, là il n'a pas parlé de sang, mais il parlait de laver les mains. Mais c'est la même chose, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Voilà, donc c'est là que le Seigneur... Et maintenant, dans l'acte des apôtres, au chapitre 15, il y a les frères Jacques et les autres qui recommandent aux chrétiens qui sont avec les juifs de ne quand même pas manger le sang pour ne pas choquer les juifs. C'était ça plus l'idée. Ce n'était pas dans le sens que c'est interdit, L'idée était qu'il ne fallait pas être une occasion de chute. Voilà. Oui.
Oui. Et concernant aussi certains chrétiens qui ne mangent pas les animaux, disons les aliments sacrifiés.
On Quels sait bien que.
Non, puisque il est dit que j'ignore le passage. Non, mais si on est devant.
Il y a des animaux sacrifiés ici. Hein. Quel chrétien quel...
Non, il y en a qui ne mangent pas ces aliments, comme on appelle halal.
Ah, donc, c'est sous... ce que tu appelles les animaux sacrifiés. Halal, c'est ça.
Oui, oui, qu'on fait sous le, d'après le rite musulman. Et bon, bien sûr qu'on voit l'épisode de l'histoire de Pierre, où le Seigneur lui dit que tu avais donné cet exemple tout à l'heure, qu'il tue et qu'il mange, même si ça a été interdit dans l'ancienne alliance. Et Paul aussi, il va dire que quand nous sommes devant un nouveau converti, s'il y avait des telles choses que nous évitons de les manger pour ne pas faire tomber le nouveau sacré, le nouveau converti. Bon, aujourd'hui, nous voyons bien que, étant même aussi anciens ou étant affermis, nous arrivons à... Bon, il y a des gens qui arrivent quand même à ne pas toucher à ces aliments-là, recevant quand même de ne pas le toucher. Qu'est-ce que tu peux dire de ceux
qui ne veulent pas,
qui ne veulent pas et ceux d'autres qui disent que non, mais c'est écrit, fallait le faire.
Ah, c'est écrit quoi qu'il faut le faire?
C'est écrit qu'on peut les manger en rendant grâce.
Ce n'est pas écrit qu'on peut les manger. On nous a dit tout simplement que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille. Pour le reste, chacun se laisse conduire par le Saint-Esprit. Voilà. Que celui qui mange quelque chose et qui ne mange pas. C'est ce que le frère Paul développe dans Romains 14. Il dit, mais ça va changer quoi? Bien aimé, vous imaginez les choses qu'on a mangées. Moi, ça fait plus de 40 ans que je mange. Mais est-ce que je me rappelle même ce que j'ai mangé il y a 16 ans? Qu'est-ce que ça va faire? Ça fait 40 ans que tu manges chaque jour. Mais non, c'est ce que Jésus dit, mais vous êtes sans intelligence, vous ne comprenez pas que... Mais est-ce que ça change le cœur? Il y a Mike Jackson qui s'était mis dans un truc là où il respirait que de l'eau, de l'oxygène qui pur. Mais est-ce que ça a changé le fait qu'il était mauvais? Non, ce n'est pas ça qui change. C'est les choses spirituelles qui changent. C'est le péché qui détruit l'homme. Ce n'est pas les aliments. Et dans Romains 14, il développe tout ça comme il faut. Hein. Romains 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Voilà. Donc, il en parle. Il dit, mais voilà. Celui qui décide de manger que les légumes. Ah! Il va louper les poissons. Ça c'est, on le laisse. Ouais, on ne va pas s'attaquer les uns les autres. Voilà. Il y en a qui se fâchent. Mais comment ils refusent de... Oh, mais c'est son problème. Pourquoi toi, tu te fâches? Parce que tu te sens comme un échec. Ah non, tu n'es pas un échec. Ce n'est pas ce qu'on mange qui change quoi que ce soit. Voilà, c'est pas ça. C'est le péché qui détruit les vies. Ce n'est pas la nourriture. Toutefois, nous devons faire attention aussi à la gourmandise. Il y a des gens qui mangent par gourmandise en disant que ce n'est pas interdit. Mais non, peut-être que dans ton cas, le discernement aurait voulu que tu ne manges pas. Mais c'est la gourmandise qui te fait manger, sous prétexte que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Donc il faut aussi quand même qu'on... Voilà, c'est l'esprit qui nous conduit et c'est tout quoi. Ok, on va prier. Que nous allons bénir le Seigneur puisque nous avons clôturé avec le sang. Nous allons bénir le Seigneur pour le sang qui a coulé à la croix, le sang de l'agneau qui nous donne la victoire. Hein, le chant qu'on chante, I'm gonna stand right under the blood. Donc je vais me tenir sous le sang de l'agneau. Where the devil can do me no harm. Là où le diable ne peut même pas me toucher. Donc, c'est cela. Et qu'on n'ose pas toucher quelqu'un qui se met là. Tu vas brûler. Attaquer un chrétien, or lui, il est sous le sang de l'agneau. Tu vas te brûler pour rien. Donc, si tu le vois, tu as l'impression qu'il pêche, c'est son problème avec son Dieu. N'attaque pas celui qui est sous le sang de l'agneau. Tu vas brûler comme les démons. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour le sang de l'agneau qui a coulé pour notre délivrance et pour notre salut. Merci pour ta fidélité, ta bonté, ton amour et ta bienveillance. Dans le nom de Jésus, sois loué, sois exalté, sois magnifié, parce que nous sommes vainqueurs à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, nous avons le passage autorisé pour parler à notre papa. À cause du sang de l'agneau, les forces des ténèbres sont vaincues. Dans Colossiens, c'est écrit, 2, 14 à 16. Nous sommes dans la victoire par le sang de l'agneau. Je suis fort, fort. Oui, plus. Nous sommes heureux d'être sous le sang de l'agneau. Et nous pouvons sortir de ce lieu tranquillement, dormir tranquillement, nous réveiller et faire ce qu'on a à faire, parce que rien de mal ne peut nous atteindre. À toi la gloire, la louange. Oh Seigneur, c'est bien d'être ton peuple. Comme c'est écrit dans ta parole, heureuse la nation qui a l'Éternel pour Dieu. Parce que non seulement tu nous as créés, tu as payé le prix pour que nous ne soyons plus condamnés. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.